Poitiers, bonjour. Vous rentrez de Grèce, qui est un pays dont la dette nationale est très élevée et commence à poser un problème de décrochage, de décrochement. Est-ce qu'on peut aller vers une contagion à des pays comme le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie? Vous qui rentrez du front, quelles sont un peu les nouvelles?
Donc, globalement, il faut bien comprendre que pour l'instant, en Grèce, c'est vrai qu'on a surtout un sentiment d'injustice, j'ai envie de dire, de la part des Grecs, puisque c'est vrai qu'on a fait un petit peu croire que tous les problèmes sont dus uniquement à la Grèce, alors qu'en fait, c'est une crise beaucoup plus grave, hein. C'est pas seulement une crise grecque, on a aujourd'hui affaire à une crise de la zone euro, hein, de la gouvernance de la zone euro qui a été complètement inefficace depuis 10 ans, donc c'est ce que aujourd'hui nous posions, hein, malheureusement, que ce soit en Grèce et ailleurs. Donc, bien entendu, qu'il y a un risque de contagion à l'ensemble des pays, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, dans la zone euro, à l'exception de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, donc seulement trois pays, dans tous les autres pays de la zone euro, il n'y a même pas assez de croissance économique simplement pour payer les intérêts de la dette publique. Et ce, depuis 4 ans. Ce qui veut dire que globalement, pour payer ces intérêts, il faut encore s'endetter. Ce qu'on appelle la bulle de la dette, et donc c'est ça le problème numéro 1 de la zone euro, c'est pas simplement la dette publique de croissance, c'est l'échec de la zone euro qui depuis 10 ans n'a pas réussi à générer une croissance forte, et évidemment on a vu avec la crise de 2008, et bien là où la récession a été la plus forte, ce n'est pas aux États-Unis, mais c'est dans la zone euro. Donc c'est ça qui coûte très cher aujourd'hui, évidemment les pays les plus fragiles commencent par payer, donc c'était la Grèce, l'Irlande, le Portugal, mais évidemment derrière, si on ne restaure pas la croissance, il y aura l'Espagne, l'Italie et la France, bien entendu, par la suite. Et donc, encore une fois, on bute sur un problème de gouvernance économique dans la mesure où la zone euro n'arrive plus, ce qu'elle avait réussi une seule fois, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, elle n'arrive pas à générer une croissance forte. Et on voit le paradoxe, on l'a encore vu depuis tout le mois de juillet, où d'un côté, on veut sauver effectivement la Grèce, du moins l'aider, et de l'autre côté, la Banque Centrale Européenne a augmenté les taux d'intérêt, ce qui a renchéri l'euro, donc cassé la croissance, et donc augmenté le déficit. Donc c'est ça qui ne fonctionne pas dans l'euro, c'est qu'on n'a pas de politique économique crédible et responsable. Et donc à partir de là, on va, je pense certainement, on peut espérer colmater les brèches, mais on ne résoudra pas le problème de fond, qui est une croissance beaucoup trop faible.
Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque direct pour la monnaie commune, pour l'euro, tout simplement, et de le voir disparaître au moins en termes de monnaie utilisée dans certains des pays de la zone?
Alors bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est vrai que le risque existe. Enfin, je pense qu'il ne faut pas dire que c'est pas possible, parce que malheureusement, aujourd'hui, ça peut être envisageable. Alors, ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est qu'on ne peut pas exclure un pays de la zone euro. Ah, c'est pas prévu par les textes. Par contre, un pays peut s'exclure de lui-même. Donc c'est ça qui peut être dangereux, c'est que si demain, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'issue à cette crise en Grèce ou ailleurs, eh bien un pays peut dire, écoutez, moi, la zone euro, ça ne va plus du tout, je fais un moratoire sur ma dette publique, donc je résous en partie de la dette publique, et évidemment, ce pays-là aura besoin de ce qu'on vient avec la Chine, qui, elle, aujourd'hui, a envie justement d'investir en Europe. On va faire très attention à cela, parce que si un pays sort de la zone euro, on ouvre la boîte de Pandore, et malheureusement, tout les pays, effectivement, pas tous, mais une grande partie des pays de la zone euro pourraient à ce moment-là faire de même. Et donc, ça serait une explosion de la zone euro.
Est-ce que ça,
c'est ça qui est effectivement extrêmement dangereux? Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, je pense que là, on va encore sauver les meubles, mais c'est vrai que si on continue comme ça, d'histoire réglementaire, un budget fédéral européen, une politique monétaire efficace qui n'engage pas que l'inflation, etc., si on ne fait pas tout ça, je pense que la zone euro est vouée, malheureusement, à l'explosion dans les 3 à 4 prochaines années, avec quand même un élément très important qui aura lieu en 2012, c'est les élections en France. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, il faut être honnête, hein, le seul pays qui vraiment a fait des réformes économiques fortes dans la zone euro, c'est l'Allemagne. Et on sait très bien que l'Allemagne ne peut pas s'intéresser seule, elle a besoin de la France pour faire avancer l'Europe. Donc si en 2012, on fait le bon choix stratégique et on suit l'Allemagne, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on sauvera la zone euro. Mais si en 2012, la France fait des choix inverses à ce qu'ont fait les Allemands, notamment en termes de baisse de la dépense publique et de mobilisation de l'économie, alors là, on risque de casser le coup franco-allemand et donc il suffit de casser la zone euro. Donc je pense que l'année charnière sera 2012 et à ce moment-là, bien entendu,
Alors, position des USA par rapport à cette situation?
Alors, aux États-Unis, c'est vrai qu'on a une situation aussi difficile, puisque eux aussi, qui avaient habituellement une croissance très forte en phase de reprise, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de redémarrer avec 4-5% de croissance, et bien là, on le voit, depuis 2-3 ans, ils ont certes une petite reprise, mais justement, elle est très faible. C'est-à-dire c'est une croissance reprise entre 2 et 3%, ce qui est aussi insuffisant pour créer une dynamique, notamment de création d'emplois. Et donc, c'est l'économie économique, puisque justement, ils ont voulu augmenter les dépenses publiques, et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas généré effectivement l'engouement attendu. Et donc j'ai envie de dire que les États-Unis se sont un petit peu européanisés, c'est-à-dire ils ont voulu augmenter les dépenses publiques, et donc le résultat de ça, c'était une croissance molle. Donc c'est un peu dommage, et je pense qu'on voit aller le résultat, c'est-à-dire que la République américaine a flambé, et comme il n'y a pas eu assez de croissance, et bien malheureusement, on n'a pas pu, je dirais, justement réduire les déficits publics. Et donc c'est l'échec majeur de Barack Obama, et donc maintenant la situation est telle que il y aura le soutien des républicains, et donc globalement c'est vrai que pour 2012 il y aura des élections aux États-Unis. Pour l'instant on n'est pas encore là, mais c'est vrai que le clan démocrate est quand même mal parti pour avoir un nouveau président après 2012, les républicains qui seraient là. Bon, mais d'un autre côté, je pense que les Américains vont arriver à un accord, mais c'est vrai qu'on voit bien que même aux États-Unis, il n'y a pas cette croix habituellement. Et donc on voit qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés effectivement vers le monde émergent, vers l'Asie. Et c'est ça le vrai changement de cette crise, c'est que nous avons un monde, une planète économique qui n'est plus tirée par l'Europe, par les États-Unis, mais qui est tirée, qui est donc finalement soutenue par le monde émergent et notamment par la Chine. C'est ça la grande nouveauté qui va certainement durer dans les prochaines années.
Alors, Marc, y a-t-il une possibilité de décrochage de l'euro et du dollar par rapport aux autres monnaies mondiales?
Alors, il est clair que pour le moment, l'euro est beaucoup trop fort, hein, notamment par rapport au dollar. Donc, dans un premier temps, on va certainement avoir, un accord qui va être obtenu au niveau européen. Donc, l'euro pourrait se stabiliser, mais inévitablement, l'euro doit baisser vers les niveaux de 1$ pour 1€ si on veut avoir une chance de relancer la croissance dans la zone euro. Quant aux États-Unis, alors c'est vrai que là aussi, les Américains profitent finalement d'un dollar faible, donc faire attention aussi de savoir à qui profite le crime dans toute cette manipulation qui va laisser croire que les Américains prévoient entre guillemets leur rite, ce qui me paraît extrêmement peu probable. Mais surtout, une fois que la croissance sera là, les Américains auront plus de dollar trop faible. Donc c'est pourquoi je pense que le dollar devra effectivement progressivement s'apprécier. Par contre, c'est clair qu'à moyen terme, ou plutôt à long terme, d'ici une dizaine d'années, alors là, il y aura un concurrent sérieux au dollar, c'est-à-dire le yuan, la devise chinoise, et là, ça peut être une crise qui sera beaucoup plus grave que ce qu'on a vécu dernièrement, mais bon, chaque crise en son temps, on va déjà terminer cette crise, et puis l'autre, c'est pendant une dizaine d'années. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, donc on devrait quand même sauver la situation à moyen terme.
D'un point de vue pragmatique, comment peut-on présenter la chose, je dirais, à l'utilisateur des produits financiers actuels? Je pense notamment aux gens qui sont investisseurs en actions, ceux qui sont détenteurs de dettes, soit qu'ils aient des bons du trésor, soit qu'ils possèdent des assurances vie.
Bon, je crois qu'il faut simplement rappeler une chose simple, hein, c'est que les crises sont toujours des phases d'opportunité. C'est-à-dire que celui qui va bien investir pourra engranger des gains importants. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut, chaque investisseur, se positionner en fonction de ce qu'on appelle le couple rendement-risque. C'est-à-dire que globalement, il faut savoir quel rendement veut-il et surtout quel risque il est prêt à supporter. Donc l'erreur que beaucoup ont commise dernièrement, c'est qu'ils ont voulu acheter massivement des obligations d'État, alors que les taux d'intérêt étaient trop bas, donc c'était effectivement très dangereux. Et donc maintenant que effectivement les taux d'intérêt vont augmenter, c'est-à-dire que les cours obligatoires, donc ces investissements en obligations d'État, surtout en Europe, peuvent être particulièrement en revanche, pour certaines obligations à 2 ans, à 3 ans sur des belles entreprises, ça peut devenir intéressant. En ce qui concerne les marchés boursiers, il y a quand même des belles opportunités, puisque les marchés boursiers ont quand même pas mal baissé pendant la dernière crise. Alors on sait très bien qu'il y a des dividendes très sympathiques qui sont enregistrés et cette année et l'an prochain, et donc il y a des affaires à faire également sur les marchés boursiers. Alors bien sûr, il y a toujours la fameuse valeur refuge qui est l'or. Alors bien, c'est la fin du système et que tout explose, et bien là on restera une valeur refuge, mais si on évite la tête par baisser, alors ils vont pas s'effondrer, mais ils baisseront un petit peu, ce qui veut rappeler simplement que l'or
classique sur des banques qui ont été observées comme étant exposées. On pense notamment à Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, malgré les stress tests qui ont été réalisés et pour lesquels les banques françaises ont passé très positivement ces tests. Est-ce que les détenteurs de comptes ont des raisons justifiées de s'inquiéter ou non?
Non, je pense qu'il ne faut pas paniquer de ce point de vue-là. Hein. C'est vrai que globalement, bien sûr, les banques ont des expositions à la Grèce ou ailleurs, mais c'est quand même une partie limitée. C'est pourquoi il n'y a pas de risque massif sur les dépôts. Bon, par contre, c'est que d'un point de vue boursier, investir aujourd'hui sur les banques, c'est quand même un petit peu dangereux. Hein, donc, il faut peut-être éviter. Mais de l'autre côté, au niveau des dépôts, il n'y a pas, de danger majeur. À la rigueur, on peut toujours diversifier un petit peu ses comptes et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour éviter de prendre des risques. Mais sinon, globalement, les banques, quand même, sont quand même relativement saines et surtout, si on obtient des accords, ce sera plus sur un réchauffement de la dette grecque, par exemple, ce ne sera pas une annulation de la dette. Donc, pour le moment, ça devrait encore aller.
Mais écoutez, Marc Toiti, on vous remercie pour ces précieux conseils.
Avec plaisir.
Et puis, on vous souhaite de très bonnes vacances, puisque vous allez être absent quelques jours, je pense.
Là, je reviens sur Paris, hein, et je repartirai tout à l'heure.
Bah, écoutez, très bonnes vacances en tout cas, et merci beaucoup, les auditeurs et les lecteurs de Consulting Newsline, Marc.
Merci, à bientôt.
Au revoir.